Vous écoutez RTL. Jérôme Chapuis.
RTL Matin, jusqu'à 9h30.
La revue de presse avec Marie Guerrier. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et dans la presse ce matin, des migrants qui traversent la Méditerranée pour fuir les horreurs de la guerre, en espérant trouver une terre d'accueil.
Ils sont plus de 4500 à avoir pris place dans un bateau qui ne peut en contenir que 320. Nous ne sommes pas en 2017, mais en 1947. Les migrants ne viennent pas d'Afrique ou du Proche-Orient, ils viennent d'Europe. Le Midi Libre revient ce matin sur l'odyssée de l'Exodus. Dimanche, la ville de Sète dans l'Hérault va commémorer cet épisode de l'après-guerre. C'était donc il y a 70 ans, dans la nuit du 10 au 11 juillet. Le navire President Warfield, rebaptisé Exodus, par ses occupants, quittait le port de Sète avec à son bord 4554 juifs rescapés des camps de la mort, des hommes, des femmes, des enfants qui voulaient rejoindre la terre promise. Ils n'y parviendront jamais, refoulés par la marine britannique à moins de 30 km des côtes de la Palestine. L'historien sétois Jean-Claude Santerre veut raviver l'histoire, empêcher qu'elle ne sombre dans l'oubli. Ce spécialiste du monde hébreu a pu mettre la main sur des documents très rares, tels que des notes des renseignements généraux français et israéliens de l'époque. Il rappelle qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1 100 000 juifs n'avaient plus d'endroit où aller. Les Nations Unies statuent alors sur des quotas de répartition par pays. Et la Palestine, sous mandat britannique, devait accueillir 100 000 juifs. Mais le Royaume-Uni refuse. Le départ de l'Exodus depuis le port de Sète se fait dans la clandestinité, avec la complicité de certains sétois et aussi du gouvernement français qui était favorable au départ. Mais le navire est intercepté au large de la Palestine le 18 juillet 1947. Il est pris en étau par deux destroyers anglais. L'Exodus est touché à la proue et prend l'eau. Il y a 3 morts et 100 blessés. L'épopée de l'Exodus provoque un émoi international qui va accélérer la création de l'État d'Israël. Le bateau fait demi-tour, revient en France. Les passagers vont attendre 1 mois à Port-de-Bouc dans des bateaux-prisons sans toucher terre et puis ils seront envoyés à Hambourg, dans un ancien camp de concentration. Sète va se souvenir donc dimanche. 3 passagers de l'Exodus seront présents pour témoigner.
De la prison à la campagne, des détenus finissent leur peine au champ.
C'est une expérience unique en France, racontée ce matin par Lacroix. La ferme de Moyen-Brie, dans l'Aisne, réinsère les détenus en fin de peine grâce à des activités de maraîchage et d'élevage. Une petite route escarpée mène à la ferme. En haut de la côte, le portail est grand ouvert. Ici, personne ne contrôle les allées et venues. Les arbres sont encore enveloppés de brume, le silence à peine troublé par le chant des oiseaux. Entre la traite, les nuits blanches pendant la période des naissances et les épizoutis à juguler, la charge de travail est importante, ce n'est pas pour déplaire à Alain. Il veille sur les 60 chèvres de la ferme. Comme une vingtaine d'autres résidents en fin de peine, ici le terme détenu est banni, il a intégré l'équipe pour une période de 8 à 10 mois, le temps de préparer sa sortie. Les résidents sont sélectionnés sur la base du volontariat, ils ont passé jusqu'à 10 ou 20 ans en prison. Éric de Villerocher, le président de l'association Ferme de Moyen-Brie, constate beaucoup de détenus sont lâchés à la fin de leur incarcération avec juste un petit sac en plastique contenant leurs affaires. On ouvre la porte de la prison et ils se retrouvent sur le trottoir, sans famille ni lieu où aller. Christian a purgé une peine de 8 ans. Il confie « J'avais un travail, une compagne, j'ai tout perdu en prison. Mon fils est né pendant mon incarcération, je ne l'ai pas connu. Après, il faut tout reconstruire, ce n'est pas évident. » Âgé de 35 ans, Christian ne voulait pas retourner vivre chez sa mère ni demander de l'aide à sa famille. Il a frappé à la porte de la ferme. La vie à Moyen-Brie est très encadrée. Travail au champ ou à l'élevage de 8h à midi, déjeuner pris tous ensemble dans la salle à manger commune, participation à la vaisselle et au service parce qu'il faut restructurer le quotidien. Les résidents bénéficient également d'un accompagnement social pour toutes sortes de démarches administratives. Même balisée, la sortie reste une étape difficile. Je suis à la fois impatient et inquiet, avoue Stéphane, 45 ans. Libéré à la fin du mois, il ne cache pas sa peur de quitter la ferme. Ici, j'ai trouvé l'amitié, le travail. Ça me fait drôle le premier matin, ça me fera drôle où je vais me lever chez moi, libre.
Le vent de liberté a renversé les statues de Lénine en Ukraine.
Oui, et le photographe Nils Ackermann a fait le tour du pays pour photographier les restes de statues déboulonnées au fil des révoltes. C'est à voir et à lire dans Libération. Première photo, dans un village, un mécanicien pense pouvoir refourguer un buste de Lénine en bronze à un ferrailleur pour moins de 3 000 $. En attendant, eh bien, la statue côtoie les carcasses de voitures. Sur une autre photo, dans un fatras de dons fait à une association qui aide les soldats ukrainiens, un buste doré de l'ancien dirigeant communiste surgit au milieu des cartons et des sacs poubelles. troisième photo, une tête en marbre de Vladimir Ilitch Lénine est installée sur une jolie pelouse verte bien taillée. C'est un homme d'affaires étranger qui a voulu l'exposer devant chez lui. Libération propose ce matin un numéro spécial à l'occasion des rencontres d'Arles, le Libé des photographes. Le reportage à Mossoul est particulièrement poignant, une douzaine de clichés. Au fur et à mesure que l'armée irakienne libère la ville et chasse l'État islamique, les habitants revivent et témoignent. C'est comme la différence entre l'enfer et le paradis.
À lire ce matin donc dans Libération, c'était la revue de presse de Marie Guerrier.